Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, qui a peur du RGPD ? Mais qu'est-il arrivé à Mark Zuckerberg ? Lui qui semblait se soucier de la protection des données personnelles comme de son premier ordinateur n'a plus que cette préoccupation à la bouche. Il l'a dit devant le Congrès américain, il l'a redit devant les parlementaires européens hier. Facebook ne pense qu'à ça. Pour preuve, le RGPD, nouveau règlement européen applicable à partir de demain et qui protège davantage les internautes, sera mis en place, ce règlement, par le réseau social Facebook, donc à l'ensemble de ses 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. Le scandale Cambridge Analytica, du nom de cette société accusée d'avoir siphonné des données d'utilisateurs Facebook à des fins politiques, ce scandale est évidemment passé par là. Mais il y a aussi la menace de sanctions qui plane au-dessus des entreprises qui ne respecteraient pas le nouveau règlement, des amendes pouvant aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial, de quoi dissuader les récalcitrants. Mais au fait, qu'est-ce que le RGPD, le Règlement Général de Protection des Données Personnelles ? Cette législation impose à toute entreprise utilisant des données personnelles collectées ou traitées dans l'Union européenne de s'assurer au préalable du consentement de leurs détenteurs. Elles doivent aussi pouvoir justifier de l'utilisation de ces données, ce qui suppose d'en avoir une parfaite connaissance. Alors c'est facile à dire, plus difficile à faire. Alors, qui a peur du RGPD ? C'est la question que nous posons ce soir à 3 invités. Éric Léandri, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le cofondateur et le PDG de Quant, qui est un moteur de recherche sur Internet. Le moteur de recherche qui respecte votre vie privée. Ça, c'est le petit slogan qu'on peut trouver quand on navigue sur ce moteur. Combien de millions de visiteurs uniques par mois ? La dernière fois que je vous ai entendu parler, c'était 60 millions.
Ouais, ben là, on va faire 70. Voilà, donc 10 millions de plus, là, et avec une croissance de 20% par mois depuis janvier, et merci Facebook, une croissance de 20% par jour pendant quelques jours, pendant Cambridge Analytica. Bon, quelques petits problèmes sur mes serveurs, il a fallu que j'en rajoute, mais en dehors de ce problème-là, c'était plutôt sympa.
J'imagine qu'à chaque fois qu'on vous invite, vous ne pouvez pas échapper à la comparaison avec Google. Ça représente combien de jours de navigation de Google, la navigation sur Quant ?
2016, on n'était même pas une journée de Google. 2017, on a fait 3 jours de Google. 2018, on est parti pour faire une quinzaine de jours de Google. Voilà. Et puis, le nombre d'utilisateurs, c'est 70 millions versus 1,3 milliard. Donc, c'est à peu près 20 à 25 fois plus petit. Mais j'aimerais bien prendre 20 à 25 fois plus petit que sa valorisation mondiale.
Bah peut-être, cela dit, qu'un jour on demandera à Google, mais combien de jours de navigation de Quant est-ce que vous représentez ?
Je précise que,
alors qu'on avait invité ce qu'on appelle les GAFAM, donc Google, Apple, enfin leurs représentants, Facebook, Amazon et Microsoft, pour participer à cette discussion, bon, on n'a pas eu de réponse, sans doute des problèmes d'indisponibilité dans l'agenda. Bon, je poursuis la présentation de nos invités. Deuxième invité, Cécile Crène, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes DPO pour l'ETRO. Alors là, ça suppose quelques petites explications. DPO, délégué à la protection des données personnelles. On va avoir l'occasion d'expliquer en quoi ça consiste. L'ETRO également connu sous le nom de Société d'encouragement à l'élevage du cheval français, qui a parmi ses missions, c'est ce que j'ai lu sur le site internet, notamment le développement des courses au trot en France. Ça veut dire qu'il y a un rapport avec le PMU ?
Il n'y en a aucun ? Tout à fait. Nous organisons effectivement, alors l'ETRO ou la SECF, hein, Société d'encouragement à l'élevage du cheval français, est une association, loi 1901, et nous organisons effectivement les courses hippiques au trot qui sont support de paris pour le PMU. Le PMU est un GIE dont nous sommes la société mère avec France Gallo qui, elle, organise les courses au galop.
Alors ce soir, c'est un petit peu la fête aux acronymes, puisque nous avons un représentant de la CNIL, bon, qu'on connaît peut-être un petit peu plus. C'est Thomas Dautieu, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur adjoint de la conformité à la CNIL, je rappelle, hein, Commission nationale informatique et liberté, qui est chargé, entre autres, alors qui a promu justement ce nouveau règlement et qui va être chargé de le faire appliquer. Règlement, on en discutait un petit peu avant d'entrer dans le studio, qui aurait peut-être gagné à s'appeler autrement. RGPD, c'est un chouïa austère.
C'est un tout petit peu compliqué, il y a parfois une confusion avec l'acronyme anglais, mais ça commence à rentrer dans le langage courant.
Voilà, et on espère qu'on va contribuer justement à populariser ce terme à travers cette émission. Alors, première question, moi je voudrais d'abord savoir, on va s'intéresser évidemment à la façon dont les entreprises que vous représentez, Cécile Crène et Éric Léandri, mettent en place ce règlement et comment vous les accompagnez. D'abord, dans un premier temps, Thomas Dautieu, avant de penser aux sanctions, mais moi je voudrais savoir ce que ça va changer pour moi en tant qu'internaute. Par exemple, si je vais sur le site site letrot.com demain, Cécile Crène, mm-hmm. est-ce que ça va changer complètement mon interface d'utilisateur ou bien ce sera la même chose?
Non, ce sera la même chose à quelques petits détails près. C'est-à-dire qu'on va, donc nous on a entamé notre mise en conformité depuis plusieurs mois. Et effectivement, sur letrot.com, vous aurez la possibilité de, enfin, d'ores et déjà, cela dit, vous avez la possibilité d'exercer vos droits d'accès à vos données. Vous êtes informé de ce qu'on va faire de vos données, de combien de temps on va les conserver, etc., etc.
Mais le site en tant que tel, il ne change pas.
Mais le site ne change pas, non, non.
Idem pour Quant, Eric Léandry.
Oui, Quant, depuis 2013 que nous sommes en ligne, nous avons tout fait pour justement ne pas prendre vos données personnelles, pour aller jusqu'au bout, mais même nous, demain, il y aura des petites choses en plus, enfin ce soir, en fait, déjà maintenant, hein, puisque c'est le cas, avec des liens quand il y a de la publicité sur les pages privacy des différentes personnes qui font de la publicité, par exemple.
Thomas Dautieu, on a reçu, enfin je dis on parce que je pense que c'est un petit peu le cas de tout le monde, soit par mail, soit en se connectant des messages ces derniers temps, nous incitant justement, notamment par exemple à valider les nouvelles conditions générales d'utilisation. Est-ce que je peux me retrouver demain avec des sites inaccessibles parce que j'aurais soit négligé de répondre, soit refusé ces nouvelles conditions?
Alors, normalement, non. Alors, d'ores et déjà, il y a des sites qui ont fait le choix de ne plus s'adresser aux consommateurs européens, parce que le fait de cibler des consommateurs européens, quand bien même vous n'êtes pas au sein de l'Union européenne, vous soumet aux obligations du RGPD. Donc, il y a des sociétés qui ont fait un choix, peut-être un peu étonnant, en tout cas, de ne plus cibler les consommateurs européens. Les consommateurs européens, eux, ne vont pas avoir une page blanche en se connectant sur un certain nombre de sites. L'idée pour nous est portée par le règlement et que les sites, en fait, aient anticipé les évolutions du règlement. Et parmi les grandes évolutions du règlement, il y a un renforcement des droits des personnes. Et puisqu'on parlait de l'information, notamment le règlement, il promeut l'obligation d'avoir une information qui soit claire et transparente vis-à-vis des personnes. Et on peut plus dorénavant avoir informé les personnes dans des conditions générales qui font des pages et des pages que personne ne lit. Il faut que les personnes puissent comprendre rapidement, aisément, de manière accessible, y compris sur leur âge. Donc un site qui va s'adresser à des mineurs, par exemple, ne pourra pas informer de la même manière qu'il informe sur des personnes, par exemple, qui sont plus averties. Donc cette idée de modulation de l'information et de l'accessibilité des droits, elle est extrêmement importante.
Et on voit à quel point ça peut être très divers, hein, en fonction des sites. J'ai par exemple sous les yeux les nouvelles conditions qui sont proposées par, alors je sais pas comment on dit d'ailleurs, OATV. Enfin, en tout cas, c'est le nouveau nom de la société qui est née du regroupement entre Yahoo et AOL. Ça fait une demi-douzaine de pages écrites en tout petit. C'est vrai que ce RGPD, puisque c'est un règlement, Eric Léandry, pour qu'il soit peut-être compréhensible, et il faudrait aussi peut-être qu'il soit moins touffu. Comment est-ce que vous, alors même si vous avez anticipé justement ce règlement, c'est aussi l'ADN mais comment est-ce que vous informez justement les internautes de leurs droits et comment est-ce que vous le faites pour que ce soit facile à comprendre?
Déjà, on l'écrit en gros, parce que c'est pas très complexe quand même de parler de la partie données personnelles, et on essaye de le faire le plus intelligible possible, puisque c'est exactement la demande, et donc il faut absolument le faire très simple. Donc si déjà vous avez 12 pages écrites en petit, bon, je veux bien que ça soit une façon simple de parler à vos utilisateurs, mais je crois que c'est une erreur de lecture des obligations du règlement européen. Donc ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est l'idée, c'est que ce soit clair, simple, et surtout qu'on dise ce que l'on fait, que l'on fasse ce que l'on a dit. C'est clair et net. C'est si vous êtes en train de dire, voilà, moi je prends la data pour faire ceci, ça va servir à afficher de la publicité, ça va servir peut-être à vous donner un résultat de telle et telle nature. Vous ne pouvez pas, et c'est sûrement pour ça que certaines sociétés américaines ont décidé de faire autrement, vous ne pouvez pas l'apprendre en disant « je vais vous donner un numéro social, je vais vous dire à quel point vous êtes fort sur les réseaux sociaux ». Et ensuite, prendre cette data et la revendre à qui on veut, à vos assureurs, à vos médecins, à je ne sais quel site qui essaie de vous vendre une pilule ou une autre. Ça va plus être possible. En tout cas, certains vont quand même essayer, ça c'est sûr, mais ça n'est pas du tout... C'est un vrai risque pour eux. Donc certains ont carrément décidé d'arrêter de cibler les Européens, pourquoi pas. Dans le cas de Quant, Ce que l'on a fait, bah, c'est exactement ce que l'on avait fait depuis le début. On a tout écrit en gros, on dit exactement ce qu'on en fait. Et comme on n'en fait pas grand-chose de vos données personnelles, puisque par définition, ce que l'on fait, nous, c'est on vous protège dès votre arrivée, on supprime même votre IP. Bah, écoutez, c'est un peu plus facile que pour d'autres.
Dans le cas de d'une société comme Letro, Cécile Crène, au sein de laquelle donc, vous êtes DPO, je rappelle, délégué à la protection des données personnelles. D'abord, ce sont quel type de données que vous êtes amené à recueillir et pour quelle utilité ? Parce que vous avez des clients, enfin, je sais pas, vous en avez combien de...
Alors,
en fait, il faudrait préciser ce que sont ces clients.
Oui, voilà. Donc, en fait, nous, on traite, on a deux catégories, si vous voulez. On a les internautes qui vont venir consulter notre site internet, qui vont, le cas échéant, remplir un petit formulaire avec leur nom, leur prénom. Alors, à côté de ça, on a aussi des applications smartphone où on recueille l'email parce qu'on propose des choses par rapport à ça. Donc ça, c'est une première typologie de clients, on va dire. Et la deuxième typologie de clients, ce sont les informations, les données personnelles de nos socioprofessionnels, qui est la population que nous gérons pour l'organisation des courses hippiques.
Voilà. Alors ça, c'est vrai que c'est important de préciser, peut-être à ce moment-là de la discussion, Thomas Dautieu, c'est ça ne concerne pas que les internautes, hein, cette question de la protection des données personnelles.
Non, c'est vrai qu'on a tendance à résumer le RGPD au monde du numérique. En fait, non, il s'applique au monde du travail, donc tous les fichiers RH sont soumis au règlement, la vidéosurveillance, tous les fichiers des banques, des assureurs, enfin bref, à partir du moment où on traite une donnée qu'on appelle une donnée à caractère personnel et qui va au-delà simplement du nom, du prénom, hein. Un numéro de téléphone, une adresse IP qui est traitée par un site, c'est une donnée à caractère personnel. Et bien, à partir du moment où on traite ces données, celui qui traite la donnée, il a des obligations et celui dont les données sont traitées, il a des droits et tout ça est mis en musique par ce RGPD.
Alors justement, s'agissant de vos clients, on va dire en interne, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut dire, Cécile Crène, quelles sont les données là aussi que vous recueillez ? Est-ce que vous en aviez d'ailleurs, peut-être avant que d'être nommé à ce poste et de devoir préparer cette mise en conformité ? Parce que j'imagine que c'est pour ça que vous occupez cette fonction, cette mise en conformité avec le RGPD. Est-ce qu'il y a des données dont vous avez découvert l'existence et que vous n'imaginiez pas posséder ?
Alors, pas vraiment. Pas vraiment. Donc les données sont assez classiques, hein. Ça va être le nom, le prénom, l'adresse, l'email, qui sont des données personnelles. On a aussi des données dites sensibles parce qu'on recueille dans certains cas le numéro de sécurité sociale pour des traitements spécifiques. Donc c'est vrai que on a fait un état des lieux, si vous voulez, de toutes les activités département par département dans la société. Et donc effectivement, on a classifié les données personnelles qui étaient utilisées par les différentes activités. Et on a fait un focus, parce que le travail est quand même assez large, et on a fait un focus, on s'est d'abord attaqué aux traitements qui utilisaient des données personnelles. Mais il n'y a guère que le numéro de sécurité sociale dans notre cas.
Éric Léandri, chez Quant, quelles sont les données personnelles les plus sensibles dont vous pouvez être amené à être en possession ?
Nous, ça va être en interne, c'est exactement ce qui vient d'être décrit. Donc en réalité, ça va être MyRH. Ça va être toute la partie si on a de la vidéosurveillance sur nos sites. Et donc, même chez Quant, nous avons un DPO. Nous sommes suivis aussi par le cabinet Caprioli. Nous avons un responsable de l'éthique, Guillaume Champeau, et une jeune femme juridique qui s'occupe aussi de tout ce lien avec ses obligations. Donc même chez quelqu'un qui prend pas de données personnelles, qui les traite pas, qui vous donne des réponses propres, le cadre de gestion du RGPD nécessite d'être sérieux. Donc il faut être sérieux de début à la fin. Et il faut être sérieux aussi avec ses employés, il faut être sérieux aussi avec ses différents sites. Et il faut être capable aujourd'hui de travailler sur tout ça. Parce que l'idée de la vie privée, c'est tout simplement, c'est tout bête, hein, mais c'est l'article 12 des droits de l'homme, c'est le droit à la vie privée. Et en fait, ce que j'aime dans ce RGPD, ce que j'aime dans la protection des données personnelles, c'est le fait de dire qu'en fin de compte, les données personnelles, qu'elles soient au bureau ou ailleurs, on doit les protéger. On doit, par design, garantir que c'est la vie privée qui est protégée en premier. On doit, par défaut, proposer des sites qui proposent d'abord de vous garantir votre vie privée. Bah, c'est pareil en interne. Et on a fait des tests, nous, pour notre RH, pour les logiciels DRH, on a une société qui s'appelle Bounty Factory, qui permet de faire des tests de hack Donc de voir si on arrive à pénétrer dans des sites. Et Quant est tous les jours soumis à 3500 hackers qui essayent de nous hacker toute la journée pour voir si nous, on vous protège bien. Et derrière, on l'a fait pareil pour des logiciels RH. Et quelle ne fut pas notre surprise quand on a réussi à rentrer dans les logiciels et à avoir toutes les données de ces bases de données. Donc, à un moment, la privacy by design, la privacy by default, ça veut dire garantir la sécurité.
C'est
vrai. Privacy by design, bah, il sera encore bien meilleur que moi, mais en gros, c'est privacy, c'est définir que les règles qui s'appliquent à vos données personnelles sont par défaut celles qui garantissent de les conserver privées.
Cécile Crène.
Oui, effectivement. Enfin, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Nous, une des principales difficultés que nous avons rencontrées dans la mise en conformité, c'est le volet sous-traitant. On fait appel à des sous-traitants pour certains traitements, et on a parfois les plus grandes difficultés avec nos sous-traitants parce que ils sont déjà c'est assez surprenant, mais pas très très bien informés, pas toujours très bien informés. Je ne citerai pas leur nom, mais là, nous sommes en train de travailler avec une... Enfin, on est en train de contractualiser avec une entreprise et on les a carrément aidés à revoir tout leur contrat pour qu'ils puissent mettre en place la fameuse clause 28 du RGPD qui concerne les sous-traitants. Et on en a d'autres. On n'a pas travaillé avec eux parce qu'ils ne voulaient même pas du tout en entendre parler.
Il y a un problème quoi peut-être alors d'information à propos de cette mise en place du RGPD. Depuis quand est-ce que les entreprises sont censées être informées, Thomas Dautieu, que demain c'est la date butoir où tout va changer en matière de respect des données?
Alors, ce règlement, il a été publié en 2016, donc ça fait 2 ans, et il a laissé 2 ans à l'ensemble de ceux qui traitent des données, que ce soit des acteurs privés ou publics, pour se mettre en conformité par rapport à ces obligations issues du RGPD. Ce qui est quand même important d'avoir à l'esprit, c'est que ce RGPD, c'est pas un Big Bang, c'est-à-dire qu'il reprend en droit français des principes qu'on connaît depuis 1978. La loi Informatique Liberté, et la France a été précurseur en la matière, date de 78, on a fêté ses 40 ans, donc ça fait 40 ans que le cœur de la protection des données, il existe en France et il a été traduit au niveau européen en 1995 par une directive qui s'est révélée obsolète. Et donc, on a adopté ce règlement en 2016 avec application donc demain en mai 2018.
Donc, ça veut dire que les entreprises ne sont pas censées partir de zéro.
Donc, on ne part évidemment pas de zéro. Ce règlement, il change évidemment un certain nombre de philosophies parce que en 95, en 78, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, les plateformes numériques, et il n'y avait pas ce côté international. Donc évidemment le règlement prend en compte tout ça, mais on peut pas découvrir entre guillemets la protection des données. C'est quand même quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. Après, il y a un effort d'adaptation à faire par rapport à des nouvelles obligations et des entreprises et au niveau des droits des personnes. La CNIL a essayé d'accompagner et au niveau européen en publiant des lignes directrices avec ses homologues et au niveau national en proposant des outils. Vous avez cité, madame, par exemple, le cas des relations qui sont un petit peu nouvelles, en effet, entre ceux qui traitent des données et leurs sous-traitants. Eh bien, la CNIL a diffusé un guide devant et pouvant expliquer comment on devait mettre en place ces relations, notamment contractuelles.
Vous en êtes servi de ce guide, Cécile Crène?
Oui. Je vais... on a des livres de chevet.
Vous ne le dites pas uniquement parce qu'il y a
Thomas Dautieu qui est là. Non. On a des livres de chevet. Là, je dirais que c'est mon site de chevet. Là, il est vraiment... tous les petits guides sont vraiment très intéressants, bien détaillés. Moi, ils m'ont apporté beaucoup d'informations. Ils m'ont été très utiles.
Réclé-André.
Effectivement.
Non, mais quand c'est bien fait, c'est bien fait. Allez sur le site de la CNIL, lisez, vous allez voir, c'est simple. Et il y a plein de bons conseils. Donc voilà, quand c'est bien fait, c'est bien fait. Après, j'ai pas fait toutes les CNIL européennes, j'ai pas fait toutes les autres langues, donc je sais pas s'ils ont tout traduit de la même façon. Mais juste un point, et c'est vrai, en France, on a quand même une belle avance. Nous, les CNIL, on est obligé de les suivre depuis le début de Quant. D'abord parce qu'on s'y est obligé. Et d'ailleurs, j'en ai marre de ces termes. On s'est obligé, on a dû s'astreindre, on a été contraint de fait que... En fait, on a adoré le faire. On a aimé suivre toutes ces obligations et on a créé des technologies pour que ça devienne un atout et pas un handicap.
Pourquoi aimer des contraintes?
Je vais vous le montrer, c'est assez simple. Si la contrainte, ça consiste simplement à dire « je vais pas savoir qui vous êtes, mais je vais vous donner un bon résultat », Ça veut simplement dire qu'il faut que je crée la technologie qui permet de vous donner un bon résultat sans pour autant avoir besoin de faire la police avec vous. Votre carte d'identité, votre nom, votre prénom, pour vous donner un service qui n'a rien à voir. Je vous donne un exemple super simple, la météo. Voilà, la météo, vous avez plein d'applications, vous l'installez, c'est pour avoir la météo, il fait 28 ou 25 dehors, et on vous demande d'avoir accès à vos contacts, vos SMS, votre vidéo, votre disque, votre stockage. Mais pour faire quoi ?
Bah pour me vendre de la publicité. Vous le faites pas gratuitement chez
Compte. Je le refais. Vous avez une demande de météo, et donc j'ai maintenant vos contacts, je connais vos appels, je sais ce que vous faites, qu'est-ce que je vais vous vendre comme publicité, qu'est-ce que ça m'indique sur vous? La seule chose que ça peut m'indiquer, c'est que je peux revendre tout ça à quelqu'un d'autre, qui lui va sûrement en faire quelque chose chez Le Bon Coin, mais sinon je n'ai aucune information permettant de vous targeter. Donc en réalité, on est rentré dans une histoire qui consiste à dire, je fais un produit, non pas pour le but du produit, mais je fais un produit pour pouvoir me faire de l'argent autour avec tout ce que je pourrais capter en vous donnant un service minimum. Ben là, à l'inverse, on a dû s'obliger à créer des produits qui donnaient le service maximum avec des données minimum.
Thomas Dautieu, je rappelle directeur adjoint à la conformité à la CNIL.
Je pense que ça, c'est vraiment un message important. Je pense que une erreur, en tous les cas, serait de voir dans ce RGPD qu'une nouvelle contrainte juridique qui va empêcher le développement de l'innovation. Faut pas du tout regarder le règlement comme juste un objet juridique, mais comme un objet qui, parce qu'on va s'y conformer, se permet de se différencier par rapport à d'autres services qui sont moins respectueux de la protection des données. Et c'est en train de devenir un facteur de choix pour les internautes, pour les consommateurs. Qui va mieux respecter ma vie privée qu'un autre? Et ça peut devenir un critère de sélection dans des services, notamment numériques. Et aussi, il y a un double effet de ce RGPD, c'est que ça va permettre aux entreprises de mieux identifier où la donnée, qui a accès, combien de temps elle est conservée, et à terme, de mieux la valoriser. Donc, il peut aussi avoir un bénéfice économique à bien avoir une vision très concrète de la gestion de la donnée.
Ce soir, on fait la fête, nous, hein ? Tous ceux qui protègent vos données personnelles et qui vous donnent des services qui vous protègent, ce soir, on fait la fête. Donc, passez nous voir, on est juste à côté du Trocadéro et on va faire la fête.
Donc, vous entendez, hein, auditrices et auditeurs du Grand Moudre, ouais. Quant vous invite à faire la fête, ouais, ce soir pour la mise en place du RGPD.
Cozy Cloud et tout un tas de sociétés qui respectent les choses et qui vous respectent et qui ont une croissance à deux chiffres depuis des mois.
Bon, vous allez avoir du monde. cet enthousiasme-là et cette approche, vous la partagez, Cécile Crène?
Alors, disons qu'on a quand même, nous, beaucoup de travail à faire. Parce que le nouveau règlement apporte des nouvelles choses par rapport à la loi informatique et liberté de 78. Donc nous, on a quand même des choses à mettre en place pour s'y conformer.
Mais à commencer peut-être justement par un poste de DPO. C'est-à-dire, est-ce que ce poste-là, il existait avant ?
Non.
Donc il a été créé spécifiquement pour ce règlement.
Exactement.
Ce qui demande aussi du coup un investissement pour une société comme le TROF, pour n'importe quelle société, mais en l'occurrence pour la vôtre.
Oui. Alors c'est vrai qu'on a créé. Alors bon, les entreprises, selon un certain nombre de critères, ne sont pas obligées de nommer un DPO. Nous, en analysant les critères, nous avons effectivement, nous pensons qu'il fallait créer un poste. On l'a créé. Je l'occupe.
Vous n'étiez pas forcément obligé.
Enfin, si, après avoir étudié un certain nombre de choses, et entre autres le traitement à grande échelle, nous a conduit à nommer, à mettre en place cette fonction-là. Et
Thomas Dautieu voulait réagir justement sur cette obligation peut-être de mise en place de cette fonction. Toutes les entreprises n'ont pas forcément l'obligation d'avoir quelqu'un qui va s'assurer de la conformité par rapport au règlement ?
Non, tout à fait. Le règlement a ceci d'intelligent, en fait, que les obligations sont modulées par rapport à la sensibilité de la donnée. Donc une toute petite entreprise dont le métier n'est pas de traiter la donnée, mais qui a une activité commerciale classique, aura des obligations qui sont extrêmement, je dirais pas faibles, mais en tout cas comparables à celles issues de la loi informatique liberté. Donc pour toutes ces TPE, PME qui ne traitent pas de la donnée, ne font pas de la donnée le cœur de leur activité, n'ont aucune obligation nouvelle quasiment. Par contre, plus on va traiter de la donnée, plus la donnée sera sensible, plus en effet le règlement va imposer des obligations de façon à garantir la protection de ces données, avec notamment la désignation d'un délégué à la protection des données qui est chargé d'être un peu le chef d'orchestre de la conformité au règlement. Mais donc il y a une adaptation des obligations, donc tout le discours qu'on a pu entendre depuis quelques mois un discours extrêmement négatif en disant « Mon Dieu, le RGPD, ça va être très compliqué, ça va vous coûter très cher si vous n'y êtes pas conforme ». Il faut vraiment dégonfler, rassurer la majorité, l'immense majorité des petites et moyennes entreprises qui ne traitent pas encore la donnée qui en font leur cœur métier. Il n'y a pas d'obligation supplémentaire.
Oui, parce que c'est vrai que c'est une critique qu'on a pu lire, de dire bah voilà, un règlement qui est fait a priori d'abord contre les GAFAM parce qu'il y a une exploitation des données personnelles, mais ces sociétés-là, elles sont tellement riches, elles sont tellement puissantes que ça n'est pas très compliqué pour elle de mettre en place ce genre de règlement. Il y a suffisamment de DPO, de juristes pour le faire. Par contre, les plus petits, c'est plus compliqué parce que eux, ça va se sentir sur leur chiffre d'affaires, Eric Landry.
C'est pas si simple. Alors, encore une fois, les plus petits, aujourd'hui, ils ont une chance de revenir dans la partie parce qu'ils traiteront mieux leurs utilisateurs. Et quant aux très grands dont vous parlez, c'est très marrant parce qu'aujourd'hui, vous avez des extrêmes. Vous avez Microsoft qui a annoncé mettre le GDPR non pas sur l'Europe seulement, mais sur le monde entier. Vous avez SAP qui a annoncé tout un tas de choses pour le GDPR. Alors eux, ils sont allemands à la base, mais ils sont mondiaux quand même. Ils sont mondiaux quand même. Et donc, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, que ce soit les grands, que ce soit les petits, chacun a sa problématique. Mais la réalité, c'est que nous, en Europe, on est en train de faire quelque chose de simple. On est revenu sur les valeurs européennes. Et les valeurs européennes, avec des sociétés européennes qui ont l'habitude de travailler dans ce type de contexte, c'est quand même 10 fois plus facile à organiser. Et surtout, vous pouvez avoir confiance en OVH, vous pouvez avoir confiance en COSI, vous pouvez avoir confiance en nous, parce qu'on sait exactement de quoi on parle.
Il faut croire que ces valeurs européennes, elles ont suffisamment de force pour traverser l'Atlantique. Écoutez ce que disait Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Alors, il n'était pas aux États-Unis, mais il était hier au Parlement européen à Bruxelles. Il s'est une nouvelle fois excusé. Il a fait preuve de très, très bonne volonté.
Nous travaillons pour protéger les informations des citoyens. Nous voulons leur donner plus de contrôle. Au sein du RGPD, les principes de responsabilité et de transparence sont mis en exergue. Nous partageons ces principes. Nous pensons que les citoyens doivent pouvoir contrôler les informations qu'ils partagent et avec qui ils les partagent. Nous allons même au-delà maintenant. Pour respecter ces nouvelles règles très fortes, nous avons les mêmes contrôles, les mêmes réglages pour celles et ceux qui utilisent Facebook dans le monde entier, pas simplement en Europe.
Le règlement qui serait appliqué par Facebook dans le monde entier et pas seulement en Europe, Thomas Dautieu, ça c'est une grande victoire, mais est-ce que vous y croyez entièrement ?
En tous les cas, on vit un moment clé. L'Europe a décidé de choisir un standard assez élevé en matière de protection des données. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, plutôt que de regarder ça comme une contrainte, il y a des acteurs nord-américains, mais aussi asiatiques, qui commencent à se dire, tout compte fait, c'est peut-être pas forcément une mauvaise idée. Ça peut être un bon étalon pour nous, nos propres services et nos propres économies. Et en effet, on espère que ce règlement, il va tirer vers le haut un certain nombre de zones géographiques et politiques, et que à terme, il va devenir à une sorte d'étalon mondial pour la protection de données. C'est notre espoir, on l'espère. Après, ça va se jouer dans la crédibilité de l'application concrète du RGPD et ça renvoie à tout le mécanisme de coopération des CNIL au niveau européen qui est une avancée très forte dans ce règlement. Donc, on y croit.
Cécile Crène.
Écoutez, s'ils ont fait les modifications nécessaires dans leur système d'information pour traiter effectivement correctement la donnée personnelle, je pense qu'ils n'ont pas fait de choix possible, en fait. Ils n'ont pas dit, si c'est un ressortissant européen, je vais le traiter de cette façon-là, et si c'est pas un ressortissant européen, je vais le traiter d'une autre façon.
C'est plus du pragmatisme que
qu'un véritable très compliqué, choix. En fait, c'est très compliqué à gérer dans un système d'information. Donc, je pense qu'effectivement, j'ose espérer qu'on peut penser qu'il traite effectivement tout le monde de la même façon.
Je crois que vous êtes...
Éric Landry. Non.
Je crois que vous êtes trop sérieuse dans l'application du RGPD. C'est une très très bonne chose. J'aurais tendance à dire que à ce niveau-là, vous pouvez faire beaucoup d'autres choses. Je pense que Mark Zuckerberg quelque part essaie de montrer patte blanche et pourquoi pas. Moi, de toute façon, par défaut, ce que j'aimerais, c'est que les grandes plateformes se mettent à changer de politique. Après, on va voir. C'est à partir de demain, tout le monde est compatible RGPD. Tout le monde a suivi le règlement des protections des données personnelles. Ça, c'est demain. Mais il faut juste savoir que toutes les années qui sont passées, tout le monde suivait les obligations de la CNIL. Et pourtant, certains ont été condamnés. Donc... C'est pas parce qu'on dit qu'on suit, donc on va juste attendre la suite et on va vérifier qui suit et qui ne suit pas. Simplement, je vais pas juger les gens avant. On va attendre la suite. Et dernière chose sur Facebook. Mais j'irai plus loin parce qu'il y en a un qu'on n'entend plus depuis 2 mois et demi. Hein. Vous avez reçu Google récemment, vous les avez entendus à la télé, vous les avez entendus à la radio, vous avez vu passer quelque part.
Bon, eh ben, oui, pas
c'est
tout,
c'est assez marrant, ça fait 2 mois. Je sais pas pourquoi, sauf peut-être que c'est exactement le business model, le même, et que là, pour l'instant, j'ai pas entendu d'amende honorable. Donc, ma vraie question aujourd'hui est la suivante. Est-ce qu'on aura de toute façon le contrôle de nos données? Ça, c'est une vraie question. La deuxième chose, est-ce qu'il y aura du choix? Parce que si à la fin c'est le traitement pareil pour les Européens et le reste du monde, mais que pour les Européens ils ont juste autant de choix que le reste du monde, c'est-à-dire peut-être aucun, à ce moment-là, on ne s'est pas compris.
Thomas Dautieu, est-ce que ce nouveau règlement, ce RGPD, ça remet en cause le business model de Google ?
Ça remet en cause son business. Non, ça ne le remet pas en cause, mais ça suppose que celui-ci se fasse de manière peut-être un peu plus transparente vis-à-vis des utilisateurs, et que d'une manière générale, sans focaliser sur les GAFAM, tous ceux qui font du traitement de la donnée ou une activité principale ou une activité accessoire se mettent au niveau des exigences du règlement, notamment en redonnant un peu de maîtrise aux personnes. C'est un concept, le terme n'est pas très joli, mais c'est l'autodétermination informationnelle. C'est mes informations, eh bien je peux décider moi-même ce que j'en fais, qui y a accès et qui peut la transmettre ou non à un tiers. L'idée, c'est de remettre le citoyen au cœur de la machine numérique.
Et si je constate en tant que citoyen, en tant qu'internaute, que, alors prenons toujours cet exemple de Google, ne respecte pas le nouveau règlement et ne respecte pas mes choix, qu'est-ce que je fais? Je me tourne vers la CNIL? Je le signale?
Alors, vous pouvez en effet porter plainte auprès d'une des CNIL, enfin de la CNIL de votre CNIL nationale, donc la CNIL française. Et surtout, ce qui est important, et c'est, je pense, peut-être une des plus grandes avancées du règlement, c'est que toutes les grandes plateformes numériques, notamment nord-américaines, jouaient un peu de la dissension entre les CNIL européennes, parce que en Irlande, j'avais pas forcément la même réponse qu'en Espagne ou qu'en France, etc. Tout cela était un peu compliqué, donc bon, on n'arrivait pas bien à se mettre d'accord. Et le règlement, maintenant, il prévoit un mécanisme de coopération obligatoire entre les CNIL. Et donc, les grandes plateformes numériques auront une seule CNIL comme interlocuteur, interlocutrice, qui se fera le porte-parole de l'ensemble des CNIL européennes, d'où des décisions qui seront décidées au niveau européen et directement applicables.
Ça, Cécile Crène, c'est quelque chose qui est intéressant, justement, de ne pas se retrouver uniquement dans un petit îlot français avec des règles qui seraient uniquement suivies à l'intérieur de nos frontières et qui n'auraient pas qui seraient pas harmonisées, on va dire, à l'extérieur.
Bah disons, enfin, c'est vrai, nous l'entreprise est très peu, enfin, n'est pas touchée par ça. Nous c'était le règlement français, enfin la loi informatique et liberté française. Donc on travaillait avec la CNIL, on a fait toutes nos déclarations à la CNIL. Ce qui se passe en Europe, enfin ça nous touchait pas. En fait, donc l'harmonisation, l'avantage, enfin moi que j'y vois, mais plus en tant que finalement citoyenne européenne plutôt.
Oui, parce que vous n'êtes pas que des PO, hein, vous allez aussi sur
voilà,
internet.
Exactement.
Vous avez peut-être un compte Facebook, je ne sais pas.
Voilà, donc c'est la force, effectivement la force d'avoir tous les pays européens qui ont bâti un socle commun pour protéger les citoyens européens, enfin les citoyens en général, même je dirais. Ça donne plus de force, forcément.
Éric Léandry ?
Ben pour nous, c'est génial. Hein. C'est toutes les startups qui font déjà l'Europe. Avant, j'avais un CIL pour la France, j'avais son homologue pour l'Allemagne. Il fallait que je voie les deux CNIL, il fallait que je vérifie pour l'Italie. Et bon, après, ça allait parce que quand même, Allemagne, France étaient plutôt les costauds dans le service de traitement des données. Maintenant, ben, j'ai un règlement pour l'Europe. Et ça vaut pour l'ensemble des gens qui ont envie de travailler en Europe. Et c'est juste génial quand même. Et encore une fois, je vous assure, regardez-le autrement, regardez-le en tant que citoyen, regardez-le en tant qu'acteur européen qui doit se lancer dans plein de pays avec différentes langues et différentes règles. Ben, on a une règle, on a des mesures qui sont les mêmes pour l'Europe, et c'est juste très bon, parce qu'enfin l'Europe a voilà, des mesures claires, voilà ce que l'on doit faire pour nos concitoyens européens. Et puis on peut l'appliquer à nos amis américains, on peut l'appliquer à nos amis Amérique du Sud, à nos amis chinois ou indiens, quand ils viennent en Europe et quand ils sont ailleurs sur Internet. Les sites européens, eux, vont suivre les obligations européennes et donc vont protéger les consommateurs.
Alors vous êtes tous les trois là dans ce studio des personnes éclairées sur cette mise en place de ce règlement, de ce RGPD. Mais le recueil des données dans une entreprise, il ne passe pas uniquement par vous ou par les DPO. N'importe qui peut se retrouver en mesure de recueillir des données, Cécile Crène. C'est-à-dire, comment est-ce que ça se passe aussi, peut-être pour sensibiliser l'ensemble d'une société? Je ne sais pas combien il y a de salariés.
240.
Alors, comment on fait pour sensibiliser les 240 salariés à cette question?
Alors, nous avons agi sur plusieurs axes. Le premier, ça a été de rencontrer tous les salariés, sans exception, qu'ils manipulent de la donnée personnelle ou pas. Parce qu'on s'est dit que les informer, justement, qu'en tant que citoyen, ça pouvait être important qu'ils aient l'information. On a fait des sessions avec ma collègue du juridique et on les a informés. On leur a expliqué ce que c'était que des données personnelles, parce que les données personnelles, c'est le nom, le prénom, l'image, etc. Mais c'est aussi une identification indirecte. Donc si je dis, par exemple, le président de la République française en 2018, donc l'ensemble de tous ces mots-là, c'est une donnée à caractère personnel parce qu'elles identifient Emmanuel Macron. Voilà. Donc, on a fait cette information-là pour que les gens aient le bon référentiel.
Que vous l'avez faite aussi, cette information, pour inciter peut-être un nouvel usage de ces données, à recueillir peut-être un peu moins, par exemple?
Alors, ça c'est dans nos étapes. Donc, déjà, informer les personnes qu'ils aient des petites alarmes qui s'allument quand on leur demande une liste, la liste de tous les socioprofessionnels qui ont plus de 20 chevaux. Je dis n'importe quoi. Voilà. Ça, forcément, dans cette liste-là, il va y avoir des données personnelles. Il faut que les gens réagissent. Et si est-ce qu'ils peuvent le faire, pas le faire, et leur dire à ce moment-là de nous consulter. On est là pour les aider. L'autre information, c'est se dire...
C'est se dire quoi? Ça fait déjà beaucoup d'informations, Cécile Crène. Thomas Dautieu, en tout cas, la sensibilisation, c'est quelque chose aussi qui est important.
Oui, alors c'est essentiel. Comme vous l'avez dit, on est tous producteurs de données, on peut tous collecter des données et d'une certaine manière, on doit évidemment tous respecter ce règlement en tant que producteurs de données, de salariés. Donc la sensibilisation de tous ceux qui traitent des données, ne serait-ce que simplement par rapport au niveau de sécurité informatique, est essentielle. Donc c'est vraiment un travail important du DPO que de sensibiliser l'ensemble des salariés et des sous-traitants avec lesquels ils travaillent. Et c'est aussi, d'une certaine manière, le travail de la CNIL que de sensibiliser l'ensemble des responsables et l'ensemble des personnes qui disposent de droits à maintenant avoir une attention toute particulière par rapport au traitement de leurs données.
Est-ce que quand on travaille à la CNIL, on est forcément sensibilisé sur ces questions? Ou bien est-ce qu'il y a quand même la nécessité aussi de faire des formations en interne? Là aussi, je ne sais pas combien de personnes à la CNIL.
On est 200, on a un DPO évidemment, et c'est vrai que sur les sensibilisations, alors pas évidemment sur le fond de la protection des données, on y est soucieux, et puis aussi parce qu'il y a une très forte motivation sur ce type de sujet. Mais par exemple, en matière de sécurité informatique, il ne faut pas se leurrer. Évidemment, y compris à la CNIL, il faut régulièrement répéter des changements de mots de passe, des verrouillages de poste, etc., etc. Parce que c'est un vrai sujet et ça devient un sujet de plus en plus important que de sécuriser les données. Il faut constamment y revenir, y compris à la CNIL.
Comment c'est devenu un sujet important pour vous, Eric Léandri?
C'était en 2010,
c'était une façon 2011. De vous distinguer de ce qui existait?
Non, du tout. C'était vraiment basé sur la logique. 2010-2011, le numéro 1 du monde des moteurs de recherche décide de devenir un univers et de prendre l'ensemble de vos données depuis 2008-2009. À partir de là, vous retrouvez en fait dans ces espèces de bulles de filtres, vous retrouvez dans un espèce d'univers qui a été formé par rapport à vous. Si vous aimez les extraterrestres, vous allez voir, ils viennent d'arriver. Si vous aimez plutôt telle ou telle partie, vous allez voir que c'est lui qui est poussé en avant. Et en mettant juste derrière votre épaule, je suis capable maintenant, aujourd'hui, de vous dire si vous votez à droite ou à gauche, rien que parce que je vois si vous lisez plutôt le Figaro ou l'UMA dans les premiers résultats. Donc l'idée globale qui est derrière ça, c'est tout simplement, les journalistes, ça compte pas à chaque fois, vous avez toujours regardé un peu tout, bon voilà. Mais la plupart des gens, c'est ça. Et donc, résultat, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que quand ils ont créé ces nouvelles idées-là, ben en fait, ils vous créent dans un espèce d'univers qui n'est pas notre univers, qui n'est pas notre monde. Et tout ça, c'est dû à cette espèce de collection de données complètement schizophrène qui consiste à vous amener là où on veut, c'est-à-dire vous vendre quelque chose très cher. Nous, on s'est dit, On va vous offrir tout le web, l'ensemble du web, de façon neutre, sans vous traquer et sans rien faire de tout ça, parce que ça correspond à une idée toute bête, le droit à la vie privée. Vous avez droit à 15 minutes sur Internet de tranquillité. Ben, passez chez Quant. Voilà. Dans la vraie vie, vous fermez les rideaux à la maison.
Voilà, et passer chez Quant, c'est vraiment le mot de la soirée, hein, puisque vous, je le rappelle, vous faites la fête ce soir pour lancer le RGPD.
Oui,
vous
et appelez, on n'est pas tout seul.
Tout le monde à venir vous rejoindre. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Éric Léandri, Cécile Crène et Thomas Dautieu. Émission que vous pouvez réécouter sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. On peut même y accéder par la page Facebook de France Culture. Et oui,
mais vous avez
Radio
le droit.
France, bah heureusement, dites
parce
donc.
Que vous l'avez dit.
Merci en tout cas à tous les trois. Merci à toute l'équipe du Grain. Fanny Richer, Antoine Tricot, Isolde Sicard, Antoine Bulster et Prune Saez. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan.